Il y a un mot dont on parle beaucoup qui est connaître et qu'on retrouve donc dans l'expression l'arbre de la connaissance, qui est quelque chose de l'ordre non seulement du savoir, mais de l'expérience effectivement. À tel point que c'est un verbe qui est traduit aussi pour la relation conjugale. Voilà. Adam connut Ève, sa femme. Merci. Mais je disais, puisque j'ai eu la chance de parler en direct avec quelqu'un du groupe, ce qui est étonnant, c'est que souvent, du coup, on prêche sur cette connaissance qui est une connaissance intime et faite dans l'expérience. Il y a une chose, quand on regarde de près ce verbe-là, quand il est utilisé du côté de Dieu, c'est une connaissance qui n'abuse pas de l'autre. Et quand il est utilisé du côté de l'homme, même Adam connut sa femme, c'est quelque chose de l'ordre de l'abus. C'est-à-dire que c'est très difficile pour l'humain de connaître de manière intime sans mettre la main sur. Donc ça, moi, je n'avais jamais réalisé. Alors simplement pour la question de Adam connut sa femme, on sent que le tout est à la fois assez beau et en même temps bancal, puisque immédiatement après, Ève va dire « J'ai acquis un homme avec Dieu ». C'est-à-dire que Adam disparaît complètement. Et elle met en valeur cette puissance de faire naître, comme Dieu peut faire naître. Donc vous voyez, dans tous les textes bibliques, la connaissance, elle va prendre du temps. Et du coup, je reprends la deuxième question, qui est une très bonne question. Je ne sais pas s'il fallait, mais je pense qu'effectivement, cette connaissance-là, elle se fait avec l'expérience. Et notre manière d'expérimenter fait que quand on découvre quelque chose, on risque d'en faire le tout. Et puis on découvre petit à petit qu'on n'a pas encore tout découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. Mais dans la façon dont le texte biblique se méfie de l'utilisation de ce verbe connaître, c'est parce que quand je comprends quelque chose, je risque d'avoir l'impression que j'ai tout compris et de vouloir tout faire rentrer dans ce que je viens de réaliser. Or, la connaissance, elle échappe toujours. Elle nous échappe toujours. André Vénin, qui est un commentateur, cette utilisation dans la Bible hébraïque, que seul Dieu connaît, tout en respectant l'ensemble des points de vue, la diversité. Mais effectivement, nous risquons toujours, nous connaissons toujours de manière partielle, toujours. Et je pense que c'est pour ça que nous avons besoin salutairement des autres. Mais vraiment au sens profond du terme. La totalité, la connaissance.
Finalement, la maîtrise, finalement, on possède une sorte de vérité. On a accès à une sorte de vérité.
Tout à fait. On va retravailler ça avec le texte de Paul demain. Mais vous avez tout à fait raison. Et du coup, c'est très intéressant de dire comme pour Judas qui a trahi Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est vrai que il ne fallait pas qu'Adam et Ève en passent par là, mais le fait qu'ils passent par là leur apprend, les fait entrer dans la connaissance. Parce qu'effectivement, et le texte en tant que lecteur vous fait entrer dans une certaine connaissance, ce qu'on disait, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir les yeux ouverts, de connaître le bien et le mal, si cette connaissance immédiatement vous fait voir que vous n'êtes pas le tout, que vous êtes nu, que vous êtes limité et fragile, et que vous vous cachez. Vous voyez ? Ça veut dire qu'avoir les yeux ouverts n'est pas suffisant pour connaître le bien et le mal. Puisque je vais confondre, ici dans le texte, la limite, la fragilité, la vulnérabilité, on peut le dire aussi, avec le mal. Il faut que je m'en défende. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la vie. Et du coup, je vais m'en défendre. Alors que la vulnérabilité, elle peut au contraire être le cœur même de la relation vivante. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les yeux ouverts et la parole du serpent, on se rend compte que finalement c'était un mensonge, puisqu'elle va conduire non pas à la vie et à la relation, mais au fait de se préserver de l'autre, en premier lieu du regard de Dieu, et ensuite ça va d'ailleurs toucher entre l'homme et la femme, se préserver l'un de l'autre. Donc, déjà là, le texte vous montre que, bienheureuse faute, mais dans un autre sens que ce qu'on le dit, parce qu'elle vous fait réfléchir sur c'est quoi connaître le bien et le mal ? À partir de quoi ? Est-ce que c'est avoir les yeux ouverts dans l'absolu ? C'est pas suffisant. Et c'est même un mensonge que ce que disait le serpent. Et vous découvrez, vous lecteurs, que le serpent était en train de mentir. Et qu'en fait, il ne savait pas tout. Parce que lui, son savoir, c'est un savoir de jaloux. Enfin, là, je vais un peu vite. Je vais même très vite. Excusez-moi. Et un savoir de jaloux, c'est un savoir qui effectivement veut vous faire tomber. Tandis que la manière dont Dieu sait les choses, et alors je ne l'avais pas repris, mais c'est quand même étonnant dans ce texte, Dieu sait, mais en même temps, il est celui qui ne sait pas, puisqu'il appelle, puisqu'il a essayé des choses, de trouver quelqu'un qui et puis c'est pas tout de suite le bon. Puisque sont les animaux. Donc vous voyez, quand Dieu sait, c'est pas du tout la façon dont le serpent ou nos serpents intérieurs imaginent un savoir qui permet de ne plus avoir besoin des autres. Dieu est au contraire dans un savoir qui est un savoir de vie et un savoir qui a toujours besoin des autres. Bon, excusez-moi, là, je vais un peu, voilà. Mais je pense que le texte ne dit pas, d'ailleurs, Dieu ne va pas dire « catastrophe, tout est perdu, vous avez mangé ». Non, il va repartir. Et je pense qu'une des lectures fructueuses de toutes les paroles que Dieu va dire après, c'est de dire « il accompagne ». Et d'ailleurs, le texte va vous le dire, il va finir par leur faire des vêtements pour justement les aider à rentrer dans cette vulnérabilité et cette fragilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ma loi qui est la loi de Dieu, ma parole qui est la parole de Dieu. Donc, le texte biblique, entre autres, me résiste toujours. Mais il ne me résiste pas dans le sens qu'il me dit « tu devrais être différente ». Il me résiste en me disant « crois-tu vraiment que tu écoutes le serpent ou que tu es en train d'écouter le Dieu de la vie ?» C'est ça le travail du texte biblique. Mais quand vous dites ce que vous dites, c'est profondément la parole, s'il ne devait en rester qu'une seule en Israël, c'est « écoute Israël ». C'est-à-dire c'est toujours une écoute vivante d'un Dieu qui s'est engagé avec nous dans une création qui n'est pas figée, absolument.
Oui.
Alors, à la fois qu'il nous laisse libres, mais vous voyez comment les personnes ont retraduit Dieu qui vient le soir et qui appelle et qui dit « Est-ce que tu aurais mangé par hasard ?» Enfin, comme s'il ne le savait pas. Alors, bon, excusez-moi, je ne suis pas très bonne en dogmatique et en théorie. Je suis plus lisant les textes. Bien sûr, vous allez avoir des textes où Dieu sait. Mais son savoir ne nous enferme pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il arrive comme si il ne savait pas ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout dans notre manière de réagir. Il ne nous coince pas dans notre manière de réagir. Et donc Adam et Ève auraient pu faire autre chose. Là, bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si ça répond... Mais vous soulevez quelque chose d'important qu'il faut creuser. Alors, je continue. Les feuilles de figuier sont les feuilles de l'arbre de la justice et de la loi, effectivement. Alors, j'ai été prise et flashée en plein délit de lecture trop rapide. Parce que quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais les feuilles, on sait de quel arbre ils étaient. Vous voyez, en tant qu'exégète, on est souvent fixé sur certains points. Et du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et même dans les commentaires que j'ai lus jusqu'à présent, on n'avait jamais relevé que c'était des feuilles de figuier, effectivement. Donc c'est l'emblème de la loi. Ainsi, la nudité n'est-elle pas camouflée par des lois civiles, religieuses Voilà, je lis pas la fin parce que du coup je trouve que c'est très inspirant. Nicodème était sous un figuier, c'était vraiment un fidèle en Israël, et Jésus lui fera remarquer, un homme droit en Israël, il est sous le figuier, c'est-à-dire sous cet arbre de la loi. Effectivement, c'est pas anodin là que ce soit des feuilles de figuier qui leur permettent de se cacher. Ça veut dire, vraisemblablement, je crois qu'on peut aller jusque-là, que la loi peut nous servir pour nous cacher. Et que la parole même de Dieu peut nous servir pour nous cacher de Dieu lui-même. Oui, on se cueille des versets pour les mettre aux endroits de nos fragilités et en faire des écrans. Mais ça va très, 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 très loin parce qu'il y a aussi un figuier, vous vous souvenez, quand Jésus monte à Jérusalem et qu'il arrive au temple. Et ce fameux épisode où Pierre va dire le figuier que tu avais maudit, or il n'était pas maudit, mais effectivement, il y avait cette parole que plus jamais tu n'es de fruit. Ce figuier qui, de l'extérieur, on avait l'impression qu'il allait nourrir, et puis il n'y a pas de fruit. Alors certains textes compliquent encore les choses en disant ce n'était pas la saison des figues. Donc, mais il y a vraiment un parallèle avec le temple, vraiment. Et quand ils repartent, dans l'évangile de Marc entre autres, donc Pierre va dire, tiens, le figuier que tu as maudit ce matin a desséché. Et Jésus va avoir un curieux enseignement sur la prière. En disant, si vous croyez, vous pourriez dire à cette montagne, va dans la mer, et elle irait dans la mer. Or, dans l'évangile de Marc, vous n'avez qu'un lieu, parce que c'est bizarre cette histoire de demander à une montagne d'aller dans la mer. Or, vous avez un épisode où des cochons vont dans la mer, les esprits impurs. Et si vous écoutez tout ça ensemble, vous vous dites, eh bien, la montagne, c'est justement le temple. C'est ce lieu où on devrait rencontrer Dieu et où, en fait, on ne rencontre que des marchandages. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et peut-être que la prière essentielle, c'est qu'on ne fasse pas de Dieu une caverne de voleurs, ni personnellement, ni en Église. Et que l'impureté, elle ne soit pas confondue avec le temple. Voilà. Que le lieu où se tient Dieu soit reconnu, c'est la prière du Notre Père. Hein. Que ton nom soit sanctifié. Voilà, je dis ça un peu rapidement, mais je crois que C'est vraiment très très intéressant et c'est ce qui est au cœur de nos vies de croyance. Ne pas mélanger l'impureté, c'est-à-dire ce qui conduit à la mort, et donc c'est l'autre question, hein, sur, il y avait une question comme ça. C'est quoi finalement la mort ? La mort, ici, dans ce texte, elle est mise en scène par la coupure des relations. Par la honte qui fait qu'on se replie et qu'il n'y a plus de parole en vérité qui est dite et qu'on se cache. Voilà. Ici, dans ce texte, la mort, c'est vraiment cela. Et si on avait continué le texte, c'est aussi la domination entre l'homme et la femme. Enfin, alors je continue. Je pense que c'est un geste justement d'accompagnement de Dieu, parce que nous ne pouvons pas tenir tout le temps tout nu dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité. Alors là aussi, vous me poussez dans mes retranchements, parce que face à Dieu, je résisterai, mais il faudrait que je travaille certains textes, hein, parce que je crois que face à Dieu, on peut être profondément en fragilité tout le temps. C'est ce que je vous disais du verbe connaître, parce que lui, quand il nous connaît, il ne nous enferme pas, jamais, et il ne nous écrasera jamais. Et quand il nous connaît, c'est le magnifique de la parabole du père avec les deux fils, là, du fils prodigue, c'est que le fils dit prodigue, donc celui qui est parti, quand il revient, il dit « Je ne suis plus digne d'être ton fils ». Et le père, dans sa façon d'être, va dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes toujours fils. Jamais nous ne perdrons cette qualité de fils. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est être nu devant les autres, c'est-à-dire la soi-disant transparence dont on parle, eh bien ça, c'est dangereux. Alors, c'est vrai qu'on peut apprendre à être plus transparent, mais une transparence totale, c'est la possibilité d'être complètement emberlificoté par l'autre. Ce que je vous disais du verbe, oui, je ne suis pas allée jusque-là, connaître l'autre, c'est effectivement dans Sodome et Gomorre, mais c'est aussi dans Juge 19, ou etc., ça devient du viol quand c'est entre un homme et une femme. Donc vous voyez, on a fait des commentaires qui disaient la connaissance entre l'homme et la femme, c'est l'intimité, etc. En fait, quand on regarde dans les textes, quand on utilise ce mot-là pour les relations sexuelles entre un homme et une femme, c'est qu'il y a viol. Donc, de fait, mais ouais. C'est très juste, c'est-à-dire que c'est à nous d'entrer dans de ne plus nous cacher. Mais ce n'est pas aux autres de nous enlever nos vêtements. Et vous voyez que c'est très profond dans la relation, mais du coup, ça dit aussi beaucoup de choses dans la sexualité, sur l'égard à la nudité du corps de l'autre, pour que ce ne soit pas une mainmise ou un pouvoir, mais que ce soit dans un vrai acte de liberté de l'autre. Alors je lis là, c'est pas une question. Accepter ma différence, celle de l'autre. Accepter l'inconnu en soi et l'inconnu dans l'autre. Ouais, je crois que c'est ça qui nous fait peur très souvent. Enfin, j'en souris, mais très souvent c'est ça. Et que c'est important d'entrer dans ce qui était dit au début, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Pour moi, je suis assez impressionnée que des gens qui vivaient les difficultés de relation comme nous, on les vit, hein, aient pu dire dans un texte, au début, à l'origine, c'était pas ça. À l'origine, on pouvait être nu sans en avoir honte. trouve ça extraordinaire, comme chemin spirituel, comme connaissance de Dieu, d'avoir pu dire ça. Parce que Dieu sait que ce n'est pas dans les autres récits de création ailleurs. Alors, il y a une chose que moi, j'aurais du mal à comprendre sans vous relâcher la parole. Chute dans l'oubli amène de la culpabilité. Donc, moi, je l'entends comme vouloir nier ma fragilité, ma vulnérabilité, mes blessures, vouloir les éviter. Effectivement, les enfouir, c'est ça que j'entends dans « chute dans l'oubli », amène de la culpabilité. Mais je ne sais pas si j'entends bien ce qui a été dit dans le groupe. Alors là, songe simplement des échos. Hein. Qu'as-tu fait de ta liberté ? Donc c'est vrai que c'est une phrase qu'on peut se poser. Et qu'as-tu fait aussi de l'accueil de la fragilité en toi ? Enfin, c'était la première phrase. Parenthèse, j'ai mal cité la deuxième question de Dieu. C'est pas qu'as-tu fait de ton frère, c'est où est ton frère. Je suis allée regarder, il me semble pas que j'ai cité de manière. Et après seulement, qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie contre toi. Mais la question de Dieu, c'est où est ton frère ? Caïn va répondre : je ne suis pas le gardien. Va voir toi-même. Oui. Alors ensuite, ben oui, qu'as-tu fait pour faire de l'autre ton frère ? C'est très beau ça. Voilà, donc je n'ai pas à commenter ça. Se rendre vulnérable, sûr de Dieu. Alors ça, c'est très très beau. Et ça rejoint ce que, me semble-t-il, vous disiez. C'est-à-dire que, sûr de ce regard de Dieu qui peut me voir dans mes limites et dans ma fragilité, il y a quelque chose qui du coup me donne une force et qui me permet de laisser voir et de me rendre vulnérable. Ça, je crois tout à fait. La mise à nu comme délivrance. Voilà, si ça vous est arrivé, je pense que vous avez vécu ça dans un temps de réconciliation, de sacrement du pardon. La mise à nu est une délivrance. Je n'ai plus à avoir toutes mes protections. Je peux enfin être là tel que je suis et je découvre que la vie est plus simple que ce qu'il ne m'y paraît. Ça, je crois tout à fait. Le très bon exemple, c'est aller vivre avec les gens de l'Arche de Jean Vanier, des handicapés. C'est très impressionnant de se retrouver dans un contexte où on a l'impression que finalement vivre, c'est nettement moins compliqué que ce qu'on pense. Parce qu'ils touchent à quelque chose de... Ils ne peuvent pas cacher leur fragilité. Et du coup, il y a quelque chose de la relation à l'autre, de la relation à Dieu, qui est donné d'une manière peu courante. Chemin, trouver l'équilibre. Oui, tout à fait. Donc, je pense, j'entends ça comme ça, entre se protéger notre nudité, notre vulnérabilité, et en même temps, accepter de petit à petit la découvrir. Le serpent met le manque au centre, alors qu'il y a toute une forêt de bons fruits. Alors ça c'est tout à fait vrai. Et l'autre manière que le serpent ou nos serpents intérieurs peuvent avoir, c'est tu as presque tout, ça veut dire que tu as tout. On n'entend plus le presque. Je prends juste dans l'épisode de Joseph et ses frères. Vous souvenez peut-être, pour ceux qui connaissent, il est vendu par ses frères, ou du moins c'est même plus compliqué que ça, mais il se retrouve en Égypte. Et là, au service de Potiphar se rend compte que cet homme, Dieu est avec lui. Et du coup, il lui confie toute sa maison. Et la femme de Potiphar va trouver que Joseph est un très bel homme et va vouloir absolument que Joseph couche avec elle. Et Joseph va lui répondre « Tout ici est entre mes mains, il m'a tout donné, sauf toi. » C'est-à-dire sa manière d'entendre le « sauf » et que le « sauf », ça ne veut pas dire « rien n'est à toi ». C'est exactement ça. Et là aussi, il faut qu'on apprenne que tout est à nous, sauf. Mais que ce qui est à nous est bien plus vaste, ce qui nous est donné, que ce qui nous est demandé de ne pas faire. Parenthèse, c'est ce qu'on dit à propos des 10 commandements. Hein. Il n'est pas dit « tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça » parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup de liberté. Mais « tu ne feras pas ça » comme des balises. « Tu ne tueras pas, tu ne te feras pas d'idole. » Mais à l'intérieur de ça, vas-y, vas-y. Alors, préciser le contexte, le concept de péché, le terme hébraïque, c'est... Oui, tout d'un coup, je ne savais plus lire l'heure. Le concept hébraïque, c'est très très beau. Le terme qui veut dire péché, c'est le même terme qui est utilisé pour le tir à l'arc. C'est-à-dire... Je n'ai jamais fait de tir à l'arc, mais j'imagine que vous positionnez votre arc. Vous tendez à la bonne tension. Vous visez vraiment pour atteindre le but. Vous lâchez votre flèche et vous vous rendez compte qu'elle va à côté. Donc, le péché dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, c'est cet écart.
C'est manquer la cible.
Pardon ? C'est manquer la cible. Mais c'est cet écart. Je me suis forcée vraiment de tout mon être à arriver quelque part et je me rends compte que j'arrive à côté. Donc, fondamentalement, le mot veut dire ça. Ici, dans ce texte, je vous ai dit, le mot de péché n'y est pas. Le mot de péché va apparaître pour Caïn quand Dieu va aller le rencontrer en lui disant « Pourquoi tes faces te tombent-elles ?» Et là, il va dire « Le péché est à ta porte comme une... » Voilà, prêt à sauter sur toi, comme une bête. Là, je vais me risquer. Pour moi, ce qui est de l'ordre ou ce qui touche au péché dans ce texte-là, c'est non pas d'avoir mangé du fruit, mais c'est de se cacher. C'est-à-dire que fondamentalement, le péché, c'est de se cacher et d'essayer à la fois de ne pas montrer ce dont j'ai honte, et d'essayer de réparer moi-même. Je crois que c'est le cœur de ce qui vient biaiser. Vous voyez, biaiser et du coup nous faire arriver à côté. C'est pour ça que je le relis. Il me semble que ce texte de la Genèse, c'est ça qu'il vient de dire. On ne peut pas réécrire le texte. Mais ça serait intéressant de réécrire un texte où Adam et Ève ne se seraient pas cachés devant Dieu. C'est intéressant d'essayer de se dire qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là. Et je pense que le gros nœud du texte, c'est ça. C'est la honte qui fait qu'on se cache.
Est-ce que du coup, à la fin, le dernier... Ce que dit Adam à la fin,
oui.
Parce qu'il répond « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché.
Oui. »
Est-ce que c'est pas justement...
C'est ça le péché.
Oui, mais est-ce que c'est pas justement un moment où...
Effectivement, je crois tout à fait. Ce qui est curieux, c'est que je pense qu'il ne reconnaît pas son péché parce qu'il va dire immédiatement après « C'est la femme que tu m'as donnée. » C'est-à-dire que pour lui, il va situer son péché sur le fait d'avoir mangé du fruit. Et du coup, il va accuser quelqu'un d'autre, puisque c'est effectivement dans le texte sa femme qui l'a poussé à manger. Sur ce, il aurait toujours pu refuser. Mais je pense que le texte est plus subtil que ça, et que quand il dit « ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte », et quand il dit « leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus, ils se firent », c'est qu'il vous situe là, là, ce qui va tordre toute la relation. Si je prends le mot « péché » comme torsion, voilà, ce qui amène ailleurs. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est la honte et du coup se cacher.
Est-ce que ce que vous venez de dire, ça ne rejoint pas le péché de Judas, qui croit que son péché, c'est d'avoir trahi Christ?
Vous avez tout à fait raison.
C'est d'avoir été désespéré au point de se pendre.
Voilà. C'est la différence entre Pierre, la trahison de Pierre, et la trahison de Judas. C'est que l'un se laisse approcher dans sa trahison et que l'autre va se pendre. Ah oui, la question sur... il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Y a-t-il une fécondité pour les personnes qui vivent seules? Alors là, seul, ça ne veut pas dire ne pas vivre en couple. C'est ça que je voulais dire. Seul, ça veut dire sans vis-à-vis. Il n'y a pas que le couple où on vit une situation de vis-à-vis. Seul, ça veut dire sans communauté. Ça veut dire sans lieu où je peux échanger, apprendre des autres. C'est ça, la solitude. Je peux très bien vivre seul, veuve ou veuf ou personne seule parce que je suis seule, et être en lien avec énormément de personnes. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de solitude là. Il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est une absence de vis-à-vis. Oui, mais vous voyez bien que cette défiance, elle vient du fait que moi je suis fragile et je ne connais pas tout. Et Dieu, lui, il risque de tout connaître. Et donc je commence à me méfier de Dieu. Parce que je lui donne une connaissance qu'il n'a pas, puisqu'on voit que ce n'est pas cette connaissance chez Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-on parler de connaissance du bien et du mal dans la sexualité et en particulier dans l'homosexualité? Ça, j'aimerais bien qu'on le garde pour demain. Parce que avec le texte de Paul, on va être vraiment dans ce genre de choses. Voilà, ce qui n'était pas une question. Ce qui nous a plu dans un couple, ce n'est pas figé. C'est une création. Et ça, c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est le seul endroit où on parle du couple, c'est dans la Genèse. C'est quand même pas rien, de manière institutionnalisée, justement à cause de ce petit verset qui vient, l'homme quittera son père et sa mère. C'est la seule chose qu'on dit, en fait, au couple dans les préparations de mariage. Donc je lis les réactions suivantes. Texte qui montre que Dieu tâtonne dans la création et qu'il existe le bon et le mauvais avant la création de l'homme. Alors là, on n'a pas lu le chapitre 1, mais il y a une chose étonnante dans le chapitre 1, si vous le lisez, c'est qu'il n'y a que deux moments où Dieu crée. Sinon, il sépare, il fait, mais le verbe créer est utilisé qu'à deux moments. Il fait pousser, il sépare, enfin voilà. C'est quand il crée les animaux, et en particulier les animaux, les monstres marins. Or, les monstres marins, c'est ce qui va symboliser les forces du mal. Le Léviathan, c'est le serpent qui non seulement est un serpent, mais qui vit dans la mer. Et vous savez que les Hébreux n'étaient pas tellement un peuple marin. Et du coup, la mer, c'est vraiment là où on se noie, quoi. C'est les forces du mal, c'est les forces de la mort. Vous voyez, sinon on entend que la terre produise des animaux vivants, etc. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa, la deuxième fois, l'homme à son image. C'est très curieux, ce parallélisme. Et à chaque fois, il bénit et il dit « reproduisez-vous ». Bon, je ne sais plus pourquoi je me suis embarquée là-dessus. Sur le mal. Avant la création. Donc, c'était exactement ça. Merci. Vous voyez que dans le texte de la création, il y a la possibilité du mal. On l'a de nouveau, là, avec le serpent qui vient. Mais, excusez-moi, je vais faire un saut un peu rapide. Quand vous lisez la fin de Job, du livre de Job, qui est un livre sur la sagesse aussi, quand Dieu enfin va prendre la parole devant un Job qui a tout perdu et qui dit par rapport à justement tous les théologiens qui viennent lui dire « Mais tu sais, si tout ça, ça t'arrive, c'est qu'il y a quelque chose que tu as dû faire de travers, quoi. Tu as dû pécher. » Et Job, petit à petit, grâce quand même à ses amis, entre guillemets, qui deviennent ses ennemis, qui au début sont ses amis, grâce à eux, va finir par dire « Mais c'est faux ce que vous me dites, c'est du mensonge ce que vous me dites. Parce que même si j'avais péché, ça n'entraînerait pas toute cette déchéance qui me prend complètement. » Donc il va finir par dire « Non, je suis juste. Et je demande à Dieu de me rendre des comptes sur qu'est-ce qui m'arrive. » Et il commence, lui aussi à tâtons, à réaliser qui est ce Dieu devant lequel il s'époumonne. C'est ce qu'il va dire. Hein. Je m'époumonne devant ce Dieu qui ne répond pas. Et quand Dieu va répondre, il va répondre par deux grands discours chez Job. Le premier, qui est une visite de la création, où effectivement, Dieu va dire à Job qui il était, c'est-à-dire celui qui crée et en même temps celui qui fait attention au fait que les petits du lionceau ont faim, que l'œuf de l'autruche peut être écrasé parce qu'elle le laisse sans protection. Enfin, c'est assez tendre et poétique ce texte, mais ça marque la distance entre Job et Dieu. Et puis la deuxième réponse, Dieu va dire à Job, assieds-toi à côté de moi. Et revêt-toi de ma puissance. Et si tu arrives à maîtriser l'homme qui commence à devenir une bête, il ne le dit pas comme ça, je te féliciterai. Sous-entendu, je n'y arrive pas. Et là, vous avez une description magnifique des deux monstres. En disant, mais le monstre marin, Léviathan, pour moi, c'est rien du tout. On a comme l'impression que c'est une interprétation de la Genèse. Mais quand l'homme, je l'ai fait comme je t'ai fait, il redit ça dans le discours, il fait entendre cette proximité. Mais quand l'homme devient monstrueux, moi, je n'y peux plus rien. Et à ce moment-là, il demande à Job de devenir intercesseur à ses côtés. Et parenthèse, l'homme qui devient monstrueux, en premier lieu, dans le livre de Job, ce sont les amis qui ont voulu défendre Dieu à tout prix. Et là, Dieu va dire, ils ont vraiment mal parlé de moi et ma colère s'enflamme. Voilà. Ceux qui ont voulu justifier Dieu, qui ont fait tout un système de la foi. Donc on revient à ce qu'on disait hein, sur le temple. Voilà. Donc tout ça pour dire que cette possibilité du mal n'est pas un risque tant que l'homme n'est pas ailleurs que là où est sa place d'homme. Mais quand lui-même rêve d'une puissance bestial, et quand lui-même devient bestial, et Dieu sait qu'on le voit, qu'on voit que c'est possible, y compris en chacun de nous, à ce moment-là, le mal devient inquiétant. Inquiétant, enfin, mortifère, une menace, une vraie menace. Homme créé sans doute avec du bon et du mauvais, en tout cas libre de choisir ce qui est du côté de la vie et libre aussi de choisir par moment, soit volontairement des choses qui sont du côté de la mort, ça arrive, soit libre de choisir des choses qu'il croit être du côté de la vie et il se rend compte après coup que c'est du côté de la mort. Homme libre dans le jardin, mais sans accès à la connaissance, n'est-il pas un imbécile heureux ? C'est ce que disent certains, c'est-à-dire que pour qu'il devienne vraiment adulte, il fallait qu'il sorte du jardin, quoi, et qu'il scoltine le travail de la terre. Et le... ce qui va loin, ça veut dire que, si je reprenais cette phrase, nos rêves de ne pas vivre des situations compliquées ou des situations qui nous font mal, ce sont des rêves d'imbécilité, si je reprends votre phrase, quoi. Mais si vraiment je veux entrer avec toute mon intelligence de relation dans la vie, effectivement, je ne peux pas le faire sans passer par des moments où je me brûlerai, où je serai égratignée, enfin, ou plus qu'égratignée, blessée. L'homme transgresse et a honte de lui-même, du mal en lui, aveuglé par sa faiblesse. Pourquoi ? Alors, je crois que le texte ne va pas dire pourquoi, il va dire c'est ça qui nous fait dévier, cette honte. Mais pourquoi est-ce qu'on a honte ? Sans doute parce que nos rêves sont comme ceux du serpent, hein. Le serpent, c'est un peu, il est en nous aussi, hein. C'est de pouvoir tout connaître, de ne jamais se tromper, de ne jamais avoir mal. Et du coup, quand nous nous trompons, nous avons... Peut-être que vous ne le vivez pas, vous, hein, comme ça. Mais ou quand nous sommes différents et fragiles, nous, facilement, nous avons honte. Et le texte ne vient pas expliquer pourquoi, si ce n'est ce que je vous disais, peut-être parce qu'on est comme le serpent, mais il vient surtout dire, attention, la honte, c'est du mensonge. On a le droit d'être pécheur. On a le droit d'être fragile. On a le droit à l'erreur. Mais ce qui est terrible, c'est de camoufler cela. Mais vous avez tout à fait raison, et à moitié pardonné, puis en même temps, ça amène la vérité, parce que tant que vous vous cachez, on est dans un jeu de mensonges.
Mais dans la comtesse de Ségur, il y a une chose, oui, aussi, c'est la curiosité, c'est un vilain défaut.
D'accord. Il faudrait voir le contexte de la curiosité. Quelle curiosité ! Je lis encore, main tendue par Dieu, où es-tu ? Appel à renouer le dialogue dans le respect de la liberté de l'homme. De fait, et puis ça dit aussi, où es-tu ? J'allais presque dire le désir et le besoin de Dieu pour être Dieu, d'avoir aussi l'homme en vis-à-vis. Il n'y a pas que l'homme qui a besoin d'avoir un vis-à-vis. Dieu a besoin d'un vrai vis-à-vis. Et il en a eu, hein. Rappelez-vous Moïse qui va dire à Dieu, à un moment où Dieu a plu, d'après le texte, où Dieu ne veut plus continuer avec le peuple d'Israël et dit cette fois-ci, c'en est fait, on efface tout, je les extermine dans le désert et Moïse, je reprends avec toi. Et Moïse qui va lui dire, tu te rends compte de ce que tu me dis là ? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Non, c'est pas toi. Donc, Dieu, certaines écoles juives ont une forte... assurance que il faut l'homme en face de Dieu, sinon Dieu ferait n'importe quoi.
Oui.
tout autant que nous avons besoin de Dieu, parce que sinon, sans lui, on ferait n'importe quoi. Mais vous voyez la force de l'alliance, du coup. Mais dans ce « où es-tu ?», ça veut dire aussi, je trouve que c'est une très belle parole. Où es-tu ? J'avais un ami qui est décédé maintenant et qui racontait cette phrase. Alors, il avait toujours honte quand moi j'en ai parlé. Donc, parce que c'est une image un peu qui a l'air niaise quand il l'avait dite. L'image, je vous la donne telle qu'il l'avait donnée, mais que je trouvais très très forte, c'est l'image quand Dieu vient nous rencontrer. Il trouve sur la porte un écriteau « Absence pour cause de sainteté ». Et je trouve ça magnifique. Ça va avec la nudité, la vérité, la... Où es-tu ? Est-ce que tu es là où tu voudrais être ? C'est-à-dire... la femme pasteur extraordinaire, qui a toujours la parole juste, qui jamais ne se mettra en colère, qui peut accepter n'importe quoi, enfin vous voyez. Là je suis en train de vous dire mon imaginaire de temps en temps. Et bien si je suis là, il ne peut pas me rencontrer. Où es-tu ? Cette question, elle est très profonde. C'est-à-dire, acceptes-tu d'être simplement toi, avec tout toi, avec tes hontes, avec tes vulnérabilités, avec c'est là qu'il vient nous rencontrer. C'est à partir de là qu'il peut y avoir un chemin de connaissance. Et si vous lisez les textes bibliques, et je dirais juste une petite chose sur la lecture, parce que je crois que j'ai pris tout. Oui. Effectivement, souvent, quand la première réaction quand on lit un texte biblique, alors je ne sais pas si c'est la même pour vous, c'est je me sens coupable. Il vient me dire que je ne fais pas ce qu'il faut, le texte biblique. Mais c'est exactement la voix du serpent. Et alors ça nous empêche de lire les textes bibliques de manière extraordinaire. Alors, juste un petit mot sur la lecture, puisque vous me posiez la question. Là, ce que j'ai essayé un tout petit peu de mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle la lecture sémiotique. En même temps, je vous ai fait un tout petit peu de ce qu'on appelle l'historico-critique, c'est-à-dire la remise en contexte, quand ça a été écrit, et du coup, ça permet aussi de... Mais l'historico-critique, c'est-à-dire la remise en contexte, ce sont les notes en général de vos Bibles, de Jérusalem, de la Tobe, etc., qui vous remettent le contexte, vous ne pouvez le savoir que par l'extérieur. Il vous faut des connaissances. Donc, heureusement, il y a des commentaires. De même pour le texte hébreu, voilà, la signification de l'hébreu, etc., vous ne pouvez le connaître qu'en lisant certains commentaires, ou rabbiniques ou autres. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui a été important dans toute la découverte de la linguistique, c'est de dire on ne parle jamais de manière anodine, même quand on parle nous. Hein. Si je dis il traversa la porte qui était fermée, ou si je dis elle était fermée la porte. Il la traversa. Vous sentez que ce n'est pas tout à fait la même chose ? Ça veut dire que la traversée, ça a été quelque chose de volontaire, parce que ce n'était pas évident. Bon, je pense on pourrait prendre d'autres exemples. Donc la sémiotique, elle va très rapidement prendre en compte que le texte, le mot texte, c'est la même racine que tisser. Donc, prenez un tapis. Vous avez beau connaître les couleurs, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du... quand on se met à tisser pour en faire quelque chose, vous ne saurez pas le dessin. Parce que si vous avez beaucoup de rouge, peu de vert, etc., ça donnera des choses différentes. Donc la sémiotique va apprendre à lire un texte tel quel et à regarder comment les mots jouent les uns avec les autres. Quel sens particulier ils ont dans ce texte. Et j'ai essayé de vous répondre sur la question du péché par rapport à ce texte et pas de manière en allant chercher un dictionnaire. Et ça, c'est une habitude. Il faut qu'on apprenne à lire, et je crois qu'on en est tous capables, mais ça veut dire prendre le temps. Et il en faut du temps pour se dégager de nos manières d'entendre le serpent et de voilà, et de nos projections. Ouais. Donc prendre du temps, pouvoir lire ensemble, ça aide énormément. Parce que les uns et les autres, on n'a pas les mêmes projections sur les textes. Et du coup, tiens, pourquoi tu dis ça? Attends, on va retourner voir dans le texte. Enfin, voilà. Je crois qu'on a à réapprendre. Alors, je ne suis pas la seule à le dire, hein, puisqu'il y a eu des textes. Vatican II en a parlé. On a à réapprendre à lire les textes en Église, ensemble. En Église, ça ne veut pas dire avec ceux qui pensent comme nous. C'est justement dans la diversité, voire même avec des gens qui ne croient pas, parce qu'ils poseront aussi des bonnes questions. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important, de réapprendre à lire les textes pour aller au-delà de nos projections qui ne font rencontrer que nos peurs ou nos idolâtries, enfin nos fausses images de Dieu.